Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal de 18h sur Radio Okapi. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous adresser en ces débuts d'année mes meilleurs voeux de santé, bonheur et réussite pour 2026. Merci de rester fidèle à Radio Okapi. Dans un instant, nous vous présentons les titres de cette édition suivie du journal complet pour vous informer en détail. Restez à l'écoute.
Radio Okapi. Okapi.
Voici les principaux titres de cette édition. La RDC entame son mandat au Conseil de sécurité de l'ONU, une responsabilité historique pour la diplomatie congolaise. Thérèse Kayikwamba-Wagner insiste, ce n'est pas une récompense mais une mission et promet un engagement fondé sur le dialogue et la recherche d'une paix durable. Nord Kivu, reprise des combats à Katoy, la tension monte dans les Masisi. L'AFC M23 lance une offensive contre les Wazalendo et les FARDC pour tenter de reprendre le contrôle d'une zone stratégique perdue fin décembre. Santé maternelle et chirurgie réparatrice, docteur Florent Abeli Choma, responsable du centre médico-chirurgical Kitumaini, exhorte les femmes enceintes à suivre les consultations prénatales et revient sur la campagne de réparation des fentes labio-palatines. Il est l'invité du journal. À la une de ce journal, la RDC fait son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais attention, ce n'est pas une récompense, prévient la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner. C'est une mission, elle l'a affirmé ce vendredi 2 janvier, jour où la RDC entame officiellement son mandat comme membre non permanent de cette instance. Dans un message publié sur X, la ministre promet un engagement fort, dialogue, multilatéralisme et responsabilité pour une paix durable. On écoute Thérèse Kayikwamba-Wagner au micro d'Alain Irunga.
Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elles se tournent vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions.
Sur le front sécuritaire au Nord Kivu, les armes résonnent encore. Ce vendredi, des combats d'une intensité rare ont éclaté près du centre de Katoy, chef-lieu du secteur éponyme dans les territoires de Masisi. Selon plusieurs sources locales, l'AFC M23 a lancé dès l'aube une offensive contre les Wazalendo alliés au FARDC. Objectif présumé, reprendre le contrôle de cette zone perdue fin décembre. Les détails avec Jean Gandou.
Des combats d'une forte intensité ont éclaté tôt ce vendredi aux environs de 4 heures du matin après que les rebelles de l'AFC M23 ont lancé une attaque contre quatre positions des patriotes résistants congolais Pareco alliés au FARDC. Les affrontements se déroulent notamment dans le village de Kacheke situé dans le groupement Nyamaboko 1er secteur Osso-Banyungu à environ 7 km du centre de Katoy. Selon plusieurs sources locales, d'autres tirs ont été entendus dans le village Busurirwa, groupement au Mandou 1er, la localité des Miolé, groupement de Mufuni Kibabi, dans la chefferie des Baoundé, ainsi qu'à Mohairoa, un groupement qui bat Bido secteur de Katoï. Ces mêmes sources estiment que la FCM 23 tente de reprendre le centre de Katoï perdu à la fin du mois de décembre dernier. Le dimanche 29 décembre, les combattants Wazalendo du mouvement Pareco, force de frappe, avaient repris le contrôle de Katoï ainsi que des villages voisins de Mitimingi, Kaoundou, Kacheke et Kakota à l'issue des violents combats. Ces affrontements avaient causé plusieurs morts dans les deux camps et permis la capture d'au moins 28 combattants de la FCM 23 ainsi que de 12 armes selon des sources militaires. La FCM 23 contrôlait Katoï Centre depuis la mi-novembre 2025. L'attaque de ce vendredi constitue la deuxième tentative du mouvement rebelle de reprendre la localité après une première offensive survenue mardi dernier.
En Ituri, la fête du nouvel an a viré au cauchemar. Des tirs nourris ont éclaté dans la région des Mabanga, territoire de Djougou, selon des sources locales. Des éléments de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP, ont ouvert le feu, provoquant une riposte des FRDC qui auraient réussi à repousser les assaillants. Ces affrontements désormais fréquents plongent les habitants dans une peur permanente, notamment à Guélé, Passion, Mabanga et dans les localités voisines. Beaucoup de familles ont fui, craignant pour leur sécurité. Conséquence, plusieurs structures sanitaires tournent au ralenti, voire sont abandonnées après la fuite du personnel médical, compliquant gravement la prise en charge des malades, déplore un responsable sanitaire local. Dans la Tchopo, le nouvel an a également viré au drame. Deux personnes ont été froidement abattues dans les territoires d'Ango, à près de 500 km au nord de Kisangani. Et selon les premières informations, un policier aurait ouvert le feu à bout portant dans un bistrot alors que les victimes célébraient la nouvelle année. Un acte qui plonge tous les territoires dans la consternation. Les récits complets avec Jacques Mokonkole.
La société civile locale rapporte que le drame s'est produit aux environs de 20h heure locale au centre commercial d'Ango. Pendant les réjouissances, une discussion éclate. Quelques minutes après, surgit en trombe une jeep de la police. Deux éléments descendent et demandent à la foule de se disperser. Soudain, un policier ouvre le feu et blesse mortellement deux personnes. L'administrateur du territoire intérimaire se dit choqué par cet acte criminel.
La population à bas réel, c'est ce que moi je déplorais. Et j'aimerais, à travers mon rapport que je vais faire à son excellence, monsieur le gouverneur, si les RIACP autorisent leur arrestation, ça sera une bonne chose. Parce que c'est même souhaite la population pour que la paix règne ici dans un premier temps. Et c'est ce que même la communauté a exigé.
C'est également le vœu du président de l'Assemblée provinciale et élu d'Ango, Antoine Gambo-Dupay, demande que les deux policiers soient appréhendés et traduits devant la justice pour répondre de leur forfait. Pour le moment, l'un d'eux est en cavale, tandis que le second se trouve sur place dans leur camp, assure l'autorité locale. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Toujours sur le front sécuritaire, cette fois à Kisangani, à Kinshasa, plus de 400 présumés criminels connus sous le nom de Kuluna ont été interpellés en une seule journée ce 1er janvier. Ces arrestations s'inscrivent dans l'opération Dobo menée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemain Chabani, lors d'une ronde sécuritaire dans plusieurs commissariats de la capitale. Objectif, intensifier la lutte contre la criminalité urbaine. Le point avec Grâce Hamzati.
La tournée a débuté dans la commune de Mongafula où 45 présumés Kuluna ont été interpellés. À Kintambo, 30 autres suspects ont été arrêtés. Le vice-premier ministre s'est ensuite rendu au Kalufungula où une quarantaine de personnes sont tombées dans le filet de la police. Dans le district de la Funa, au commissariat urbain de Kalamu, 51 présumés bandits y sont détenus. À Limété, les forces de l'ordre ont mis la main sur 56 autres suspects. La ronde s'est achevée dans la commune de Massina, au commissariat urbain de la Tchangu, où 242 présumés criminels sont sous le verrou, ce qui constitue le plus grand nombre de personnes arrêtées au cours de cette journée, ce qui fait un total de 424 personnes interpellées à Kinshasa en une seule journée. Ce bilan porte à près de 8000 le nombre de présumés criminels arrêtés tant à Kinshasa que dans la dizaine des provinces où l'opération Dobo, mise sur pied pour lutter contre la criminalité, est déjà opérationnelle depuis décembre 2024. Tous les suspects seront présentés devant la justice et des audiences en chambre foraine seront organisées pour que chacun réponde de ses actes, renseigne Jacquemain Chabani.
Direction Bujumbura, pour comprendre la réalité des réfugiés congolais, ils ont fui Uvira et Fizi, espérant trouver un peu de répit dans les camps de transit de Rugombo, Rumonge et Gatumba, mais la vie y est dure, très dure, manque de nourriture, d'abri, de soins, la précarité est totale. Le représentant Mapenzi Magnéboa nous en parle au micro de Jean Kassami.
Les réfugiés congolais au niveau de Gatumba ont passé cette fête de nouvelles-là dans l'angoisse parce que dans la plupart des cas, n'ont pas trouvé quand même des moyens pour acheter à leurs enfants des objets pour la fête, et notamment les habits et autres. Et surtout que nous sommes toujours dans des conditions difficiles sur le plan hygiénique. La plupart manquent à manger. Et c'est dans cette souffrance et dans cette stress que la plupart des réfugiés congolais ont passé cette fête. Mais de toutes les façons, on a glorifié le Seigneur de commencer une nouvelle. Et on n'a pas autre chose à faire, ce n'est que à remercier le Seigneur d'avoir encore cette chance d'être parmi ces gens qui ont vécu cette année malgré la souffrance, mais au moins on vient d'être parmi ceux-là qui vont encore vivre dans cette nouvelle année qu'on appelle 2026.
Installé au Burundi depuis le 10 décembre 2025, ces réfugiés congolais n'ont reçu qu'une aide limitée, essentiellement grâce à quelques initiatives privées. Le HCR au Burundi prépare actuellement leur relocalisation vers la province de Ruigi, environ 60 km au nord de Bujumbura. Sur le plan économique, pour s'assurer du bon approvisionnement du marché intérieur, en ces débuts d'année, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a effectué ce mercredi une tournée dans plusieurs ports de Kinshasa. Daniel Moukoko Samba s'est rendu notamment au port public de pêche des Kinkole, ainsi qu'au port Baramoto et CDI Boamanda dans la commune de la Gombe. Objectif, vérifier le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement et soutenir la production local. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Le vice-premier ministre de l'économie nationale a entamé sa tournée au port public des pêches de Kinkole, où il a constaté la présence des sacs de grains en provenance des provinces de Kwilu, du Maïndombe et du Kasaïo. Moukoko Samba a également visité les rayons des cossettes de manioc débarqués des Balinières. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue au port de Baramoto, situé dans la commune d'Elagombe, afin d'évaluer les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement. La dernière étape de la visite a conduit le vice-premier ministre au port du CDI Boamanda, toujours dans la commune d'Elagombe. Sur place, Moukoko Samba a visité l'usine de production dont la capacité est de 50 tonnes par jour pour l'ancienne unité et de 50 autres tonnes pour la nouvelle, soit une capacité totale de 100 tonnes les jours. À l'issue de sa visite, ses membres du gouvernement a insisté sur la nécessité de bâtir une chaîne de valeur complète et structurée allant de la production à la distribution et sur l'assainissement de ses milliers en proie à divers services taxataires. Moukoko Samba a ainsi plaidé pour la normalisation et l'encadrement de toute la chaîne de valeur de la production locale jusqu'au marché de consommation.
Actualité internationale.
Ce vendredi, Volker Türk a vivement critiqué le projet de loi israélien visant à instaurer la peine de mort obligatoire pour certains Palestiniens, estimant qu'il viole le droit international et constitue une discrimination flagrante. Selon lui, les propositions soumises à la Knesset pour élargir l'application de la peine capitale soulèvent des graves inquiétudes. Atteinte au droit à une procédure régulière, violation du droit international humanitaire et ciblage exclusif des Palestiniens, souvent jugés à l'issue des procès inéquitables. Dans un communiqué, Volker Türk souligne qu'il est extrêmement difficile de concilier une telle peine avec la gravité humaine, avec la dignité humaine, et met en garde contre le risque inacceptable d'exécuter des innocents.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui, le docteur Florent Abeli Choma, chirurgien responsable du centre médico-chirurgical Kitumaini. Dans son entretien avec Florence Kizalunga, il exhorte les femmes enceintes à suivre rigoureusement les consultations prénatales pour prévenir les malformations. Un message lancé à l'issue de la campagne de réparation gratuite des fentes labio-palatines, communément appelée bec de lièvre, où une vingtaine d'enfants ont été opérés bien loin de 100 attendu. Docteur Florent Abeli Choma répond aux questions de Florence Kiza.
Docteur Abeli Choma Florent, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Alors, vous avez lancé la campagne de réparation des fentes labio-palatines qu'on appelle communément bec des lèvres. Vous visiez 100 malades. Vous avez arrêté la campagne. Est-ce que vous avez atteint l'objectif?
Bon, on n'avait pas arrêté la campagne, on a fini tous les malades qui s'étaient présentés pour la réparation. Nous avons reçu une vingtaine de malades et tous ceux qui s'étaient présentés ont été opérés gratuitement. Effectivement, nous aurions souhaité avoir une centaine de malades, mais malheureusement, on n'avait qu'une vingtaine. Nous souhaitons à ce que tous ceux qui sont malades, que ce soit les enfants, même les adultes qui ont cette malformation, qu'ils viennent à l'hôpital général de Kindu et au centre médico-chirurgical Kitumaini qui se trouve sur la colline Chomba, sur le boulevard Joseph Kabila, qui viennent consulter. Nous allons poursuivre les traitements de manière gratuite pour tous les malades qui vont se présenter.
Docteur, la réparation c'est gratuite, mais vous visiez 100 malades, vous avez cueilli une vingtaine. Ça veut dire que cette malformation n'est plus ici en province ou bien les gens ont eu seulement peur ou bien ne se sont pas déplacés?
Je pense que, comme d'habitude, nous constatons vers la fin d'année, la plupart des malades ne veulent pas se faire opérer. Ça peut être l'une des raisons qui a fait à ce que nous n'ayons pas atteint le chiffre attendu. Et nous demandons donc à tous ces malades-là de venir consulter et nous allons les opérer gratuitement.
C'est-à-dire l'opération va continuer, ça ne sera plus en mode des campagnes, mais ça sera en mode routine?
Oui, ça sera en mode routine qui viennent et nous allons les opérer en mode routine effectivement. Donc les médecins sont permanents, toute l'équipe est prête pour les prendre en charge.
Docteur, il y a ceux-là qui sont à l'intérieur de la province, dans les territoires, qui éprouvent des difficultés en ce qui concerne le moyen de transport. Ça peut être aussi l'une des causes de se présenter à cette campagne, l'une des causes pour ne pas bénéficier de ces soins gratuits. Est-ce que, avec vos partenaires, vous n'avez pas songé à rembourser même les transports pour les malades qui sont éloignés?
En tout cas, ceux qui sont malades et qui sont loin de la ville de Kindu, qu'ils viennent, nous allons trouver des solutions ensemble localement. Qu'ils viennent, s'ils ont payé le transport, on va voir comment on peut trouver des solutions localement. Alors, pour tous ceux qui pensent que cette malformation est une sorcellerie, ça ce sont des imaginations de la communauté. Nous leur disons que c'est normal. Il y a plusieurs causes qui font que les malades puissent se présenter ces malformations. Donc, ils viennent, c'est une maladie qui est normale. Nous allons les soigner et ils vont retrouver leur sourire comme d'habitude.
Docteur, qu'est-ce qui est alors à la base de cette malformation?
Il y a plusieurs raisons. C'est pourquoi nous demandons souvent aux dames d'aller faire des consultations prénatales. Donc, il y a des causes héréditaires. Donc, la transmission des gènes des pères aux fils. Il y a d'autres causes environnementaux. Même les médicaments peuvent également causer ces genres de malformations. Il y a certains médicaments que les femmes prennent pendant leurs deux premiers mois de grossesse qui peuvent aussi être tératogènes, donc causer une malformation. Il y a d'autres conditions sur l'environnement, par exemple les rayonnements, ceux qui sont dans des sites minières, par exemple les irradiations lors de la radiographie, sans protéger la grossesse, ces rayons peuvent aller arrêter la formation des organes, parce que pendant ce temps, les deux premiers mois, il y a une organogenèse qui s'est fait. Donc, les différents organes se mettent en place. S'il y a un processus extérieur tel que le rayonnement et d'autres facteurs peuvent arrêter la formation d'un organe et là, vous avez une malformation. Donc, il y a d'autres suppléments de vitamines et tout ça, mais tout ça, c'est organisé par nos différents services en gynéco-obstétrique lors des consultations prénatales. Voilà pourquoi nous demandons souvent aux dames d'aller faire des consultations prénatales pour prévenir également contre les malformations.
Docteur Abeli Choma Florent, je vous remercie.
Je vous remercie, Madame Florence.
Notre invité, le docteur Florent Abeli Choma, chirurgien et responsable du centre médico-chirurgical Kitumaini. Il nous a parlé de l'importance des consultations prénatales pour prévenir les malformations et est revenu sur la récente campagne de réparation des fentes labio-palatines. Merci d'avoir suivi ce journal sur Radio Capi. Mise en onde, Pierre Diassinois, coordination Jude, Mister Bilanda et présentation moi-même, Gisèle Cage. Pour plus des détails, consultez notre site radiocapi.net et retrouvez ce journal en podcast à tout moment. Merci pour votre fidélité et restez avec nous pour la suite de nos programmes.